Avec l'arrivée à la présidence de la région Hauts-de-France de Xavier Bertrand, le groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais a été privé de la subvention régionale qui lui était habituellement attribuée. Une coupe budgétaire qui ampute de 25% les ressources du GON, un changement de cap en matière d'écologie qui tourne en faveur des chasseurs et qui montre une stratégie électoraliste à court terme plutôt qu'une gestion environnementale à long terme. Le GON est pourtant une association de référence dans l'inventaire de la faune de notre région, un travail scientifique qui permet notamment d'alerter sur la raréfaction ou la disparition de certaines espèces d'oiseaux. Le GON a justement publié un ouvrage complet et documenté, l'Atlas des oiseaux nicheurs du Nord et du Pas-de-Calais. Nous avons rencontré Olivier Fontaine pour parler d'oiseaux, évidemment, faune, habitat, pression environnementale, subventions et chasse. C'était en mars dernier à la réserve ornithologique de Mont-Bernanchon.
Donc Olivier Fontaine, administrateur du groupe ornithologique et naturaliste, mais avant tout adhérent bénévole. Je suis investi dans l'association depuis plusieurs années. En tant qu'adhérent, je parcours un peu la région à faire des inventaires, à essayer de faire connaître aux gens les oiseaux, mais pas uniquement, il y a aussi les amphibiens, les reptiles, les mammifères, les insectes, etc. Et je suis également formateur, donc je donne des cours d'ornithologie à Lille régulièrement. Et j'essaie aussi de promouvoir un peu les actions de l'association via les supports de communication. Donc on a un groupe Facebook, on a une page Facebook, et on essaie de faire un peu de vulgarisation scientifique, d'attirer l'attention vers l'état des lieux de notre nature à différentes échelles. C'est une mission qui me plaît. On rencontre des personnes très intéressantes et très intéressées. Alors le GON, il existe depuis plus de 50 ans. On a fêté le cinquantenaire il y a un an et demi. Il existe grâce à des subventions, que ce soit des partenaires publics ou d'autres partenaires. On a la chance d'avoir la possibilité de faire vivre plusieurs salariés qui contribuent justement à cette connaissance scientifique via des inventaires, via des actions. Je pense que c'est très important d'avoir une association référente comme ça au niveau de la région. Ces actions d'inventaire, de surveillance de la faune, ils ont permis de rendre compte de l'état des lieux, de certaines espèces d'oiseaux. Notamment, on s'est rendu compte qu'il y avait un déclin important des oiseaux qui sont dépendants des plaines agricoles, des oiseaux qui sont dépendantes des milieux bocagers. Et on a pu rassembler des centaines de milliers de données et même éditer un ouvrage qu'on appelle l'Atlas des oiseaux nicheurs du Nord-Pas-de-Calais. On a pu constater par exemple l'absence d'une espèce qui est le tarier des prés ou la pigriache grise également dans l'Avesnois. C'était des espèces qui étaient régulières et qui sont totalement éteintes maintenant au niveau régional. C'est une conséquence d'une modification des habitats, une conséquence d'une gestion un peu plus intensive de nos milieux agricoles. Les constats sont assez alarmants sur pas mal d'espèces.
On entend une alouette des champs.
Moi j'habite où il y a les grands arbres, les sapins là-bas, pas celui les loin là-bas, mais ceux qui sont là-bas. On va marcher un petit peu, on a des champs à perte de vue, sans aucun abri naturel pour les oiseaux. Et sans la possibilité donc de nicher, d'être à l'abri des prédateurs et puis de trouver des endroits qui soient propices à la fabrication d'un nid. Donc si on ajoute à ça les pesticides, les travaux agricoles qui retournent la terre, etc., de manière assez intensive, on est sur des milieux qui sont très peu accueillants pour la vie faune.
Alors dans votre atlas, vous avez fait un état des lieux. Et en termes de nombre, cette évolution des habitats, cette évolution des écosystèmes, des habitats naturels, comment ça se chiffre ?
Alors on est sur un état des lieux dans l'Atlas qui reprend des données depuis plus de 20 ans. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des espèces qui étaient assez spécialistes, qui étaient vraiment dépendantes des milieux agricoles, par exemple. Comme le bruant jaune, comme l'alouette des champs, qui pâtissait de cette culture productiviste, hein, cette monoculture, volonté de toujours produire plus au détriment de la nature. Voilà, donc le constat il est clair, hein, la baisse elle est bien effective et elle est visible. Elle est visible parce qu'on fait des comptages réguliers, on a des indices qui nous informe sur le pourcentage, le succès de reproduction, sur le nombre d'oiseaux qui hivernent, sur le nombre de cantons, donc d'oiseaux qui sont sur leur site de reproduction. Il n'y a pas photo.
Est-ce qu'il y a des espèces déjà disparues ? Est-ce qu'il y a des espèces pour lesquelles il y a de fortes inquiétudes ou des suspicions de disparition ? Où est-ce qu'on en est ?
Exactement, on a deux espèces au moins, j'ai ça en tête, qui ont disparu en tant que nicheurs de la région. C'est la pigrièche grise, qui est une espèce des milieux bocagers qu'on retrouvait dans l'Avesnois de manière assez régulière il y a encore 10-15 ans, qui est maintenant rare, qu'on retrouve uniquement pendant l'hiver, hein, un ou deux individus viennent hiverner. Le tarier des prés, c'est un passereau également qui est dépendant des prairies humides. Donc toujours un peu ces milieux bocagers, ces milieux où il y a encore un petit peu d'élevage extensif bien sûr, qui favorise la présence d'insectes, hein, via les bouses, via la présence d'animaux, etc. C'est une liaison entre l'élevage extensif et puis la diversité des milieux et donc une diversité des espèces. Alors que bon, si on reste sur de la monoculture, on a un appauvrissement, hein, clairement, de la communauté d'oiseaux, de la communauté d'insectes, etc.
Alors là, effectivement, on n'entend pas beaucoup d'oiseaux.
Effectivement. Alors ici, on est effectivement sur un site assez... assez peu riche d'un point de vue habitat naturel. Il y a très peu de haies, très peu de bosquets. On a quelques arbres isolés, mais ça ne suffit pas pour abriter des oiseaux comme je le disais tout à l'heure, hein, le bruant jaune, le tarier pâtre, même la perdrix grise. Donc ce sont des espèces qui ont besoin d'un couvert végétal. On a plutôt ici... le vanneau huppé, hein, qui se plaît à nicher au sol, hein, sur des zones assez dénudées. Mais même si le vanneau huppé trouve de quoi nicher, hein, c'est pas pour ça que sa reproduction va réussir, parce qu'effectivement, hein, on a d'un autre côté les labours, le passage des machines qui viennent traiter, donc le succès de reproduction n'est pas garanti. Donc on se dit, où est-ce que vont aller les oiseaux ? Voilà, on a finalement on n'a plus de zone refuge, tout simplement. Et c'est un constat qui est assez partagé partout dans la région. Qu'on appelle la réserve ornithologique de Mont-Bernanchon, qui est un plan d'eau assez bien préservé, avec une ceinture de végétation de sol, une belle roselière. C'est une petite réserve donc, hein, qui n'a pas de statut particulier, mais qui est très attractif pour bon nombre d'oiseaux tout au long de l'année. On a des espèces assez peu communes au niveau régional, hein, comme le grès bacou noir, la grande aigrette qui vient hiverner sur un dortoir, sur un îlot en fait, avec l'aigrette garzette. Le martin pêcheur qui est un habitué du site. La sarcelle d'hiver, le filigule milouin, le filigule morillon sont parmi les canards les plus fréquents également du site. Et puis de temps en temps, on a une espèce encore un peu plus rare, le bioro gris, qui a déjà été vu plusieurs fois. Alors lui, il vient se percher dans les rives, sur les sols, pêcher les poissons, pardon, à l'affût. Hein. C'est une espèce très discrète. On est aussi sur un axe de passage des mouettes, hein, des hirondelles de rivage, des grands cormorans, parce qu'il y a du poisson évidemment, donc ça attire les espèces piscivores. C'est le tout début du printemps, donc il commence à avoir pas mal d'oiseaux qui chantent pour signifier qu'ils sont prêts à se reproduire, pour marquer leur territoire. On a entendu tout à l'heure une mésange charbonnière, il y a eu un pouillot véloce, la griffe d'reine aussi.
Ici, il n'y a aucune intervention humaine sur les rivages, dans l'eau, sur les bois environnants. C'est sauvage. Est-ce que c'est ça le but ?
Voilà, il y a très peu d'interventions finalement, c'est juste des aménagements d'entretien des sentiers, de faucardage, donc on essaie d'aménager pour que les berges ne s'effondrent pas, etc. Parce que il y a toujours un peu de, par exemple du rat musqué, hein, c'est une espèce qui n'est pas indigène et qui, par ses galeries, peut faire effondrer certaines berges. On a des aménagements au niveau des étangs, des mares, pour éviter une fermeture de ces milieux, pour protéger par exemple le triton crété, qui est une espèce d'amphibien qui vit dans les mares. Et voilà, on évite le comblement naturel. Donc c'est la gestion douce qui se fait à des moments opportuns, hein, pour éviter de la destruction d'espèces. Et sinon, voilà, il y a finalement peu d'interventions. Et c'est un site qui est intéressant justement pour faire la sensibilisation envers le grand public. Le GON encadre pas mal de sorties, hein, que ce soit pour compter les oiseaux pendant l'hiver, que ce soit pour faire un inventaire des oiseaux nicheurs, grâce à un partage des connaissances et puis une synergie entre les différents partenaires. On a su préserver ce site relativement bien. Il y a le souci, c'est de la fragmentation, ce qu'on appelle la fragmentation, c'est-à-dire que chaque petite zone refuge, chaque petit îlot, il est déconnecté des autres, parce qu'il y a une poussée de l'urbanisation, il y a une poussée de l'industrialisation, de l'agriculture intensive en périphérie. Et finalement, on se dit, est-ce que ça vaut le coup de protéger un couple, par exemple, de grès bacou noir, alors que, à côté de ça, il y a peut-être d'autres priorités pour d'autres espèces à d'autres échelles. Mais voilà, c'est ces petits paradis, entre guillemets. Si on les laisse tomber, si on les laisse se faire grignoter par l'industrie, l'urbanisation, on va droit vers une nature assez appauvrie, avec une diversité qui baisse, avec un aspect beaucoup moins intéressant, beaucoup moins esthétique, beaucoup moins diversifié, et donc un appauvrissement en général, la richesse spécifique, on appelle ça. Alors effectivement, les prédateurs pour les aigrettes garzettes, les grandes aigrettes, ça peut être le renard, hein, tout simplement, mais c'est la nature, voilà. Ces oiseaux-là sont capables de trouver des zones refuge d'eux-mêmes. Maintenant, s'il y en a de moins en moins, forcément, il y a des conséquences. Hein. S'il n'y a plus de zones refuge, il y a une vulnérabilité de ces espèces. Et donc un impact encore sur cette population. On rajoute encore un impact. Donc c'est important de créer des îlots. Des îlots de naturalité, des îlots
de tranquillité où l'homme intervient très peu et où bah, l'écosystème il est relativement équilibré. Donc certaines espèces sont très dépendantes de certains types d'habitats. Si on commence à toucher à ces habitats, qui sont rares parfois dans la région, hein, je pense aux prairies humides, aux prairies bocagères, qu'on retrouve pratiquement plus que dans certains secteurs de la Vénois, le Boulonnais. On a des espèces ben, qui ont disparu, je pense au tarier des prés, qui n'est plus un oiseau nicheur chez nous, qui était assez dépendante ben, des prairies avec un élevage extensif. Je pense à la pigrièche grise, qui n'est plus une nicheuse également, qui était présente dans la Vénois de manière régulière. Et donc voilà, c'est ce maillage d'habitats, c'est cette diversité d'écosystèmes qui rend notre nature riche. Les insectes sont dépendants de certains types d'habitats, les oiseaux sont dépendants également de certains types d'insectes. Si on commence à toucher à la base, donc c'est-à-dire l'habitat naturel, par les traitements, par la destruction, par la dégradation, de l'urbanisation, enfin tout ce qui peut grignoter sur ces habitats naturels va impacter par effet boule de neige toute la chaîne alimentaire. Et les derniers maillons de cette chaîne, que sont les oiseaux, les mammifères, etc., sont vraiment des victimes de ces impacts.
L'atlas des oiseaux nicheurs permet d'alerter hein, sur l'évolution des oiseaux dans notre région. Est-ce que dès le départ, il y a cette volonté de faire un travail scientifique qu'on pourrait qualifier de militant ?
Exactement. Cet ouvrage, c'est sensibiliser la population, mettre l'accent sur l'état des lieux de notre environnement, de notre nature. Et effectivement, pointer des alertes en fait sur des espèces qui sont en train de se casser la figure entre guillemets. On a une responsabilité, je pense, chacun, surtout les pouvoirs publics, de prendre en compte cette diminution de notre diversité, de notre richesse spécifique au niveau régional. Hein. Au niveau national, on est dans la même situation.
Donc c'est ça le triton crêté ?
Non, c'est un triton alpestre, mais c'est super beau. Donc là, on est en pleine période de migration des amphibiens. Triton alpestre, c'est
alpestre.
Régulier, c'est pas... Ouais, le triton alpestre. Là, il est en phase terrestre, c'est-à-dire que normalement, il est un petit peu différent parce qu'il... Et là, je regarde aussi, tu vois, t'as une grenouille verte. Qui est monté un peu sur ça commence à bouger.
Donc là il va sur son site de reproduction.
En fait ils hivernent dans des tas de bois, dans des tas de pierres. Et pendant la saison printanière, ils vont vers les points d'eau les plus proches pour se reproduire. Entre les mâles et femelles se retrouvent, ils pondent les œufs dans l'eau.
Avec l'arrivée de Xavier Bertrand à la présidence de la région Hauts-de-France, vous avez vu une partie de vos ressources, la subvention qui vous était attribuée par la région, disparaître. Quel impact ça a sur les activités du groupe ornithologique et naturaliste ?
Alors effectivement, on a été amputé de 25% de subventions au niveau global. On a été dépendant... en partie des subventions de la région. Heureusement, d'autres partenaires ne nous ont pas lâchés. Hein. Je pense à l'Agence de l'eau, je pense à l'Europe. Et il a fallu rebondir, il a fallu retrouver d'autres sources de financement. C'était une période difficile. Hein. On a
pu conserver les emplois, hein, les salariés. Et c'était une incompréhension dans le sens où il y a eu un changement complètement de cap. Exactement. Voilà. On est reconnu comme une association référente qui essaie de pointer des dysfonctionnements, des aberrations ou des abus, hein, au niveau de la gestion cynégétique. C'est pas pour autant qu'on est contre la chasse de manière catégorique, mais tout simplement en tant qu'association référente, on se doit de faire remonter des informations, de faire connaître au grand public qu'il y a une mauvaise gestion des espèces notamment en danger. Je pense à la barge rousse, je pense au courlis, je pense à la tourterelle des bois, ces espèces qui sont en déclin et qui continuent d'être chassées malgré tout. Même si la région de France a une vision pro-chasse, ça n'empêche que il nous semble important de continuer ce combat. Et c'est pas ce verrouillage au niveau financier qui va nous empêcher de continuer, de mener notre combat. Hein. Nous, on est pour une meilleure prise en compte des espèces animales dans le cadre des activités cynégétiques, tout simplement.
Il l'a justifié comment, lui, ces coupes rases dans vos subventions ?
Alors, effectivement, les coupes rases, justement, il n'y a pas eu de justification concrète, entre guillemets. On a toujours été catalogué anti-chasse, ce qui n'est pas exact dans le sens où on ne finance pas d'action anti-chasse. On est là pour alerter, pour communiquer. Il est normal de s'appuyer sur des faits scientifiques, sur des faits prouvés, pour essayer de maintenir les populations d'oiseaux. On ne peut pas se permettre de cautionner, de fermer les yeux sur un mode de vie, un mode de chasse, pardon, qui va à l'encontre de la protection de la nature. Il y a bien sûr une envie de sensibiliser les gens vis-à-vis de ça. On n'a pas une envie de faire disparaître cette activité cynégétique, mais on se rend compte que ce lobby a une portée et une puissance qui va au-delà de la nôtre.
Ça semble quand même difficile de justifier que la Fédération des chasseurs puisse être plus à même de gérer l'environnement, de protéger les espèces animales, plutôt que des scientifiques avec une tendance écologiste beaucoup plus affirmée.
La fédération de chasse, via Willy Sran ou Jean-Michel Takoun, ont essayé de reverdir un peu leur image pour paraître un peu plus écolo, entre guillemets. Bon, vous avez tous connaissance de ces affichages dans les métros. Les chasseurs étaient les premiers écolos de France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tenté de copier, ils tentent encore de copier certaines actions qui sont déjà faites par les associations depuis des années, des dizaines d'années même. Je pense au site internet de la LPO exactement, qui suit depuis des années la diversité d'oiseaux dans les jardins via un site, hein, qui s'appelle Oiseaux des Jardins. Et donc la Fédération de chasse a fait une pâle copie de ce site en copiant pratiquement mot pour mot toutes les informations. Il y a vraiment une volonté de nuire, une volonté d'écraser et d'écarter les associations naturalistes, hein, les associations scientifiques pour pouvoir se mettre un peu plus en avant.
Si on voulait être un peu soupçonneux, supprimer des subventions pour les associations naturalistes, ce qui nuit effectivement à leur travail, fait en sorte également qu'il y aura moins de données, qu'il y aura moins d'observations, qu'il y aura moins de publications sur l'état des lieux de la nature, et que donc, ne permettant pas ces publications, ne permettant pas l'apparition de ces données, en quelque sorte, on fermerait les yeux et ça réglerait peut-être aussi le problème. Est-ce que c'est le genre de soupçon que vous avez vis-à-vis de la région ?
On a eu la surprise de voir apparaître un radar sur la côte, financé par les deniers publics, hein, pour permettre de observer la migration des oiseaux, mais des insectes aussi apparemment. Mais justement, on est toujours en attente de ces résultats, alors qu'il y a une obligation hein, de rendre public ces données, ces informations. Et c'est très dommage, parce que on sait très bien ce qui se passe déjà au niveau du déclin des espèces, au niveau de la baisse des effectifs des oiseaux migrateurs, et on n'a pas attendu qu'il y ait un radar pour le constater. Alors voilà, quid des résultats, qu'en est-il? On est toujours en attente.
Olivier Fontaine, administrateur du GON, groupe ornithologique du Nord-Pas-de-Calais, au sujet de cette association, de son travail sur l'état des lieux de notre nature en région, de ses rapports aux institutions locales. Olivier qui nous a guidés lors de cette sortie naturaliste à la réserve ornithologique de Mont-Bernanchon. Pour aller plus loin, vous pouvez vous procurer l'Atlas des oiseaux nicheurs du Nord et du Pas-de-Calais, ouvrage réalisé par cette association. Plus d'informations sur le site du GON, gon.fr.